retour au lavoir avec une semaine de linge sale à rattraper. Et comme aurait pu le dire ma grand-mère, les culottes et les chaussettes en dernier. Elle aurait pu le dire, mais elle ne l'a jamais dit, parce qu'elle avait une machine à laver, et que donc elle ne s'est jamais retrouvée autour du lavoir avec ses amis, pour discuter lessive, sororité, sorcellerie, patriarcat, pour jeter pépé avec l'eau du bain, ou quelque chose comme ça. Bref, bienvenue aux auditrices en ce début d'après-midi ensoleillé. Si je peux me permettre une petite remarque météo avant de commencer, hier c'était la première journée de l'année où on pouvait sortir le linge pour le faire sécher. Et cette idée-là, cette odeur qui me vient aux narines, celle de la lessive à la lavande qui s'envole des cordes à linge, qui traverse les rues d'un balcon à un autre, ça me donne déjà envie de vous souhaiter, un mois et demi en avance, un beau printemps 2022. Au micro coloré aujourd'hui, il y a Anissa, Julie et Mathilde. Et pour le soutien dans le choix des textes, les conseils astro et les remarques de Tata, il y a Laura, qui n'a toujours pas pu être là parce qu'elle doit toujours travailler. On pense aussi à Manon et ses chats qui nous donnent beaucoup d'inspiration, et Lucie, notre experte décryptage de bouquins, qui nous revient bientôt. Pour ma part, je vous parle de Jump Darling, un film qui m'a fait rire et pleurer. Puis on lit à trois voix le prologue du livre « Cœur cousu » de Carole Martinez, scène qui se déroule autour d'un lavoir. Pour terminer, on se questionne sur les significations d'un mot, celui de sororité, à travers le recueil de textes du même nom qui a été dirigé par Chloé Delhomme et qui réunit les textes de 15 autrices différentes. Le film qu'on a été voir et qui nous a fait chouler s'appelle Jump Darling. C'est un film canadien qui est sorti en 2020 et réalisé par Phil Connell. Il passait dans le cadre de la soirée d'ouverture du festival Des images aux mots, autrement appelé Diam. Attention à ne pas confondre avec La demoiselle à la recherche d'un mec mortel, puisqu'il s'agit ici du festival du film LGBTQI+, de la Ville Rose. C'est le seul film que j'étais voir, moi, dans le cadre de ce festival, mais pour une soirée d'ouverture, ça promettait une très belle 15e saison. Déjà, ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on a passé le stade des histoires de coming out. Le film commence par une rupture entre Russell, le protagoniste, qui tente de se lancer dans une carrière de drag queen, et son copain. La mère de Russell apprend que le couple s'est séparé. Elle est triste pour elle et pour son fils, parce qu'elle adorait son mec. Voilà tout ce qui est dit de cette rupture par les images et les mots. On entre donc dans une histoire sans drame familial lié à l'orientation sexuelle du fils, dans une histoire où l'homosexualité n'est plus ni le sujet ni l'enjeu du film, mais simplement un choix d'arrière-fond. On est donc dans un monde où l'homosexualité est posée comme une des normes sociales en termes d'orientation sexuelle, point à la ligne, puntan de lane, comme on dit chez moi, ou no comment. En avant-plan du film, il y a cette relation drôle et touchante entre Russell et sa grand-mère qui est en fin de vie. Censée rester quelques jours chez elle, après être partie de chez son ancien copain, Russell décide finalement de passer un peu plus de temps, par mauvaise conscience de la quitter déjà. Et puis parce qu'il n'a pas vraiment d'autres plans, faut bien le dire. Au fil des jours, il installe sa loge de drag queen dans le grenier de la maison, où reposent les souvenirs de jeunesse de ses grands-parents. Il y découvre une vieille photo de sa grand-mère, les jambes en l'air, patins à glace aux pieds, sur un étang en noir et blanc. Cette paire de patins qu'il découvre aussi dans le grenier semble être le secret d'une vieille passion abandonnée. On garde comme goût de la fin ces rêves qu'on porte pour ceux qui partent ou qui sont déjà partis. Cette énergie qu'on met pour eux dans nos projets, les symboles qu'on dissémine dans nos vies, comme des clins d'œil vers le ciel. J'ai vu un hommage à nos mères, à nos grands-mères, la célébration d'une liberté qu'elles n'ont pas eue et qu'on décide d'arracher pour elles. Ce film nous rappelle le cordon ombilical qui nous relie à toutes ces femmes d'avant nous dans l'arbre généalogique et qui guide nos vies un peu comme un fil d'Ariane. Une bonne raison de le voir, c'est Cloris Leachman, l'actrice qui interprète superbement la grand-mère et qui est décédée l'année dernière. Et cette scène aussi avec Fishy Falters, le nom de la drag queen, qui danse sur la musique High School Confidential de Carol Pope. C'est une célébration du corps, de l'envie d'être désirante et désirée, et une explosion de beauté.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je profite de ma présence auprès des lessiveuses pour vous transporter dans l'univers merveilleux de Carole Martinez, la romancière aux doigts d'or. J'ai demandé à mes chers camarades de me prêter leur voix pour vous lire ces quelques mots empruntés au roman Le cœur cousu, sorti en 2007, dans lequel l'autrice fait vivre les récits de sa grand-mère sur son aïeule espagnole, présentée comme une sorcière couturière. J'espère que le prologue de ce conte vous envoûtera autant que j'ai pu l'être. Mon nom est Soledad. Je suis née dans ce pays où les corps sèchent, avec des bras morts incapables d'enlacer et de grandes mains inutiles. Ma mère a avalé tant de sable avant de trouver un mur derrière lequel accoucher qu'il m'est passé dans le sang. Ma peau masque un long sablier impuissant à se tarir. Nue sous le soleil, peut-être verrait-on par transparence l'écoulement sableux qui me traverse, la traversée. Il faudrait bien que tout ce sable retourne un jour au désert. À ma naissance, ma mère a lu ma solitude à venir. Ni donner, ni recevoir, je ne saurais pas, jamais. C'était inscrit dans la paume de mes mains, dans mon refus obstiné de respirer, de m'ouvrir à l'air vicié du dehors. Dans cette volonté de résister au monde qui cherchait à s'engouffrer par tous mes trous, furetant autour de moi comme un jeune chien.
Dans l'ombre du lavoir, la chaleur faisait un somme.
Je suis restée un moment derrière ma sœur, regardant ses belles mains de conteuse s'agiter contre la planche en bois, se gercer dans l'eau savonneuse. Soudain, elle s'est tournée vers moi, sans doute gênée par le poids de mon regard posé sur son dos, et elle m'a souri, en s'essuyant machinalement le revers des mains sur le tablier clair, tout mouchouté d'eau et de lumière qu'elle avait drapé autour de sa taille.
Ses compagnes de lavoir ont dressé l'oreille au-dessus de leur bassine de bois.
Les coups de battoir se sont assourdis, et même, on a fait mine de sortir les brosses qui ont frôlé la toile dans un long murmure étouffé, remuant une mousse à peine salie.
Je ne me marierai jamais. J'ai fait fuir mes amoureux, lui ai-je avoué.
Et comment est-ce que tu t'y es prise ?
Je l'ai laissé tomber, mon châle. Ils se sont battus et l'ont déchiré.
Ton affreux châle de deuil ? Ils t'en offriront un autre, plus gai. À eux tous, ils trouveront bien l'argent qu'il faut. À moins qu'ils n'en volent un à l'une de leurs sœurs.
Mon fils, il te traînait derrière aussi ?
A braillé la Maria, en tordant le cou à une chemise d'homme dont le jus laiteux dégoulinait le long de ses épais avant-bras nus. Je ne sais pas. Je n'ai vu que la poussière du combat. Mon indifférence avait froissé les femmes. Les coups de battoir ont repris en cadence. Les draps ont été frappés plus violemment dans l'eau et le rythme s'est accéléré jusqu'à ce que les bras se fatiguent et que la cadence soit rompue.
Regardez-la, celle-là, encore une qui a hérité de la couturière.
S'époumonait Manuela.
Mais marie-la donc, ta sœur, Anita. Elle ne remuera plus tant son derrière devant tout ce qui porte culotte quand elle aura un homme à la maison pour l'en empêcher.
Sûr que c'est pas ton mari, Anita, qui va lui donner la raclée qu'elle mérite à cette traînée.
A enchaîné la Maria.
Un pauvre gars, qui est si peu homme qu'il n'a même pas réussi à te faire un petit en 15 ans de mariage.
La garce n'a même pas de père et elle fait la difficile.
A continué une troisième voix. Ma sœur riait de bon cœur. Rien ne pouvait ébrécher cette joie qui lui tenait au corps depuis ses noces. Les femmes se fâchaient et m'accusaient d'envoûter leur fils, leur frère, leur père. Anita s'amusait de leur jalousie. Parmi les maris, elle en savait certains qui sûrement étaient du nombre des combattants.
Prenez garde aux bleus, aux marques sur le corps de vos hommes. Ils rentreront à la nuit tout honteux d'avoir reçu leur trempe, mais serrant contre leur cœur un morceau de tissu noir.
Maria, la bossue, s'est alors campée face à ma sœur, main sur les hanches. Elle la regardait du fond des puits sombres qui lui crevaient le visage. Très loin, dans les profondeurs, quelque chose d'éteint essayait de briller.
Votre mère est crevée, et c'est tant mieux. Il vous reste les robes, mais on vous les brûlera un jour, ces robes, ces châles qu'elle vous a légués et qui sont pleins de maléfices. On vous les arrachera du corps, et si on ne le peut pas, on vous brûlera avec. Le diable ne vous protégera pas cette fois.
Tu l'as oublié, cette robe de mariée que ma mère t'a faite pour cacher ta bosse et que tu n'as même pas payée ? Sans cette robe, tu n'aurais jamais pu la voir, ton fils. Parce que le soir des noces, c'est bien la seule fois que ton mari t'a montée. Hein.
Robe du diable ! Elle a été dévorée par les mythes le jour de la mort de ta sorcière de mère. Dévorée ! J'ai dû la jeter au feu. Elle était pleine de larves.
Bêtise, croyance de bonne femme ! Et toi, Manuela, tu étais sacrément grosse à l'église quand Juan t'a épousée. Sans ma mère, vous n'auriez pas réussi, toi et ton homme, à empêcher les gens de jaser. Ça faisait bien 2 mois que tu ne sortais plus de chez toi pour pas qu'on remarque ce qui te poussait dans le ventre. Et il n'y a eu que ma mère pour arriver à faire croire que tu étais encore pucelle. Sans la belle robe de noces qu'elle s'était usée les yeux à te faire avec les bouts de chiffon qui traînaient chez vous, tu n'aurais pas pu empêcher le scandale.
J'étais coquette alors. Je ne me suis pas méfiée. Mais c'est pas chrétien d'arriver comme ça à tirer une chose pareille de petits morceaux de tissu. J'ai bien pleuré 4 ans après, quand mon gosse est mort. Et alors, j'ai sorti la robe pour voir, et j'ai pris peur, toute décousue qu'elle était. Et le brillant de la toile, qu'on aurait pu prendre pour du satin, il avait disparu. Ce n'était plus que des torchons souillés, accrochés les uns aux autres.
Alors les femmes se sont mises à hurler toutes ensemble. Au milieu des remous de l'eau, des éclats de voix, des coups de battoir et des claquements des draps, au cœur de cette hystérie sonnante où l'espagnol teinté d'arabe et d'italien se mêlait au français, j'ai réussi à murmurer à ma sœur la phrase que je m'étais répétée inlassablement sur le chemin du lavoir. « Anita, je veux rester fille. Tu n'as plus à attendre le mariage de la dernière de tes sœurs. Va, fais tes propres enfants. » Je veux assumer ce prénom de solitude que ma mère m'a donné. Je te libère de ta promesse, car jamais je ne me marierai. Anita a compris, et dès lors, je n'ai plus eu d'amoureux.
En el canto de las olas, encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrir. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. Que me cante el mar un bolero de soledad. Que me cante el mar que ando sola con soledad. Que me cante el mar un bolero de soledad.
Alors maintenant, on va vous faire une petite lecture. On a choisi des extraits dans le recueil Sororité, qui a été publié par un collectif d'écrivaines dirigé par Chloé Delhomme. Alors, donc je vais vous lire des petits passages de l'introduction où Chloé Delhomme explique en fait pourquoi elle a voulu faire ce recueil. De la sororité en milieu hostile. Sororité, substantif féminin, du latin soror, sœur. En latin médiéval, le mot sororité désignait une communauté religieuse de femmes. Rabelais l'a fait sortir de l'enceinte du couvent à partir du XVIe siècle. Sororité devient une communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualité, état de sœur. Hors de la foi chrétienne, de la structure familiale, de toute domination masculine. Une relation horizontale, sans hiérarchie ni droit d'aînesse. Qualité, état de sœur. Un rapport de femme à femme, indéfectible et solidaire. Un rapport de femme à femme, ni fille ni mère, égalitaire. Le mot était dans le dictionnaire et il y a dormi des siècles. Il a fallu attendre le mouvement féministe des années 1970 pour qu'il soit utilisé. Le mot était dans le dictionnaire, mais personne ne l'utilisait. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. La possibilité d'une communauté de femmes, parfaitement autonome et totalement unie, n'était pas bienvenue sous le règne de l'Église et du patriarcat. Il faut mesurer la dangerosité du concept. Par la sororité surgit l'indépendance, voire l'autogestion. Le système dominant n'a aucun intérêt à être perturbé par un contre-pouvoir. Longtemps, on a pu croire que le mot fraternité n'avait pas d'équivalent féminin. Jusqu'à accepter sans moufter que le masculin devienne universel au creux de la devise française. Liberté, égalité, fraternité, dans un pays qui compte aujourd'hui plus de femmes que d'hommes, L'idée de prendre le burin au fronton des mairies peut parfois démanger. Cet ouvrage collectif est un geste sororal. Ici, 14 femmes se penchent sur le sujet. Romancières, essayistes, chercheuses, chanteuses, journalistes, poétesses, réalisatrices, metteuses en scène. Leur univers, leur parcours, leurs pratiques diffèrent, autant que leur façon d'aborder la question. Pour certaines, l'expérience de la sororité commence par le rapport avec leurs sœurs de sang. Pour d'autres, c'est une rencontre avec des inconnus. Elles racontent, interrogent, explorent ce qui constitue pour elles ce lien si particulier. Un lien tissé volontairement, qui ne s'impose pas de lui-même, y compris au sein de la cellule familiale. La sororité n'est pas une évidence, questionner le pourquoi peut aussi s'imposer. Parfois même, elle rebute, pouvant être perçue comme contraignante, voire déficiente. La sororité est un choix où le pouvoir individuel abdique au profit d'une force collective, bientôt prête à l'action. La sororité relève du politique et a le concret pouvoir de modifier le réel. Ce recueil a été pensé pour être à l'image du mot même, un outil, donc, dont chacune peut maintenant s'emparer.
Alors, dans le recueil, on a choisi d'abord un découpage du texte de Mabula Soumaoro. Mabula Soumaoro, elle est maîtresse de conférences à l'université de Tours, docteur en civilisation du monde anglophone, spécialiste en études états-uniennes et africaines-américaines et de la diaspora noire africaine. Elle est l'autrice de l'essai « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire », publié à La Découverte en 2020. Un essai autobiographique qui interroge le concept d'identité noire en France. Le texte en question s'appelle « Nous sommes cinq ». Nos années de naissance parfaitement réparties tout le long des années 1970. Années paires et impaires. Pour la plupart, des naissances individuelles, des venues en solo. Une exception, je suis arrivée accompagnée d'un frère, mon jumeau. L'autre frère, l'aîné, lui, est arrivé une année impaire, au cours de la décennie précédente. Parmi nous, il est le seul, le premier, un garçon. Un garçon, certes, mais pas le seul enfant de la décennie pour ce couple d'Africains, d'Ivoiriens, de Djoula. Deux filles, des jumelles, sont nées elles aussi, et mortes, au cours de cette décennie qui a précédé. Mais encore avant cela, au cours de la décennie qui précède la nôtre, il y a déjà eu une première naissance. Brève, furtive. Un enfant était venu au monde sans s'y ancrer. Une fille. C'était elle, notre aînée. Tout ce qui a précédé l'année 1970 s'est déroulé dans le pays d'origine, loin de la France. Loin de nous, celles qui sont nées en France, celles qui sont restées vivantes, mais qui aujourd'hui encore demeurent loin, des parents, du père, du pays, de la mère, qui a enfanté 10 fois, mis en terre sa chair 3 fois, conservé 7 enfants, qu'elle a élevé. La fratrie est finalement composée de 7 enfants, même père, même mère. Je suis l'avant-dernière, celle qui peut et a pu bénéficier de ses aînés, celle qui, malgré son jumeau, est en vérité associée à la dernière. Peut-être suis-je aussi la plus choyée. L'ombre du père fantôme ne cesse de planer malgré le départ brutal, la distance pérenne et l'évanouissement total, au final. Et plus que tout, il a toujours manqué la mère, qui s'est pourtant totalement donnée à ses fils, puis a laissé à ses filles le soin de s'occuper d'elle-même. Car elle nous a donné à nous-mêmes. Ça, c'est certain, elle n'a pas foiré. Sans le vouloir ni le savoir, elle est parvenue à confectionner le meilleur des manteaux, le plus beau, le plus chaud. Parfois aussi, celui dans lequel tu ne rentres plus quand tu as pris trop de poids ou qui devient trop ample quand tu en as perdu. Mais dans tous les cas, il reste le manteau dont tu ne peux te séparer. Dont d'ailleurs tu ne te sépareras jamais. Sans lui, tu te sentirais nu. Les sœurs, elles parlent. Elles communiquent, tout le temps, à chaque étape de ma vie. Elle conseille, met en garde et protège si besoin. Tout le temps là. Une présence presque excessive quand elles ne font pas attention. Cela dit, elles font souvent attention. Elles ne savent que faire attention. N'ont peut-être pas d'autre choix que de faire attention. Parce qu'elles sont sœurs, grandes ou petites. Parce qu'il faut se substituer à la mère. Cette mère dont la présence astrale ne fait qu'accentuer à quel point son absence est lumineuse. Les sœurs s'aiment, se parlent, se conseillent, se protègent et veillent les unes sur les autres. Elles se soignent aussi. Chacune tournée vers les autres, incapable de se soigner elle-même. Parce que la blessure est à la fois ancienne et profonde. Certains ont dit « abyssale ». Parce que la blessure n'a été que répétition quasiment systématique et systémique. La même blessure s'est abattue sur 4 des 5 corps à des moments différents. Elle a été infligée par des mains, des corps et des esprits différents tout au long des années since 1970. Une seule blessure, la même à chaque fois, qui s'est abattue sur 4 des 5 corps. Une blessure qui, depuis, se décline à l'infini, au plus profond des 5 esprits. Alors les sœurs s'aiment, se parlent, se conseillent, se soignent, se protègent et veillent les unes sur les autres. La blessure a rendu leur corps et leur esprit indivisibles. Leur république à elles est véritablement une et indivisible. C'est bien l'empire du « nous » au sein duquel le « je » peine à exister. Bien qu'ils le doivent, l'individualité n'a pas été permise par la mère. Qui a eu besoin d'un empire, qu'elle a su façonner à partir de souvenirs douloureux des 3 enfants, des 3 filles qui n'ont fait que traverser ce monde et dont la mort éternelle constitue le béton imparable qui scelle l'empire qu'il faut maintenir à tout prix. Les filles, les vivantes, ne partiront, ne la quitteront plus jamais. À tout prix, même et surtout au prix de la blessure et du silence qui a assuré la répétition et empêche depuis tout espoir de cicatrisation. Pour la mère, les filles ne la quitteront plus, elles ne mourront plus, elles ne vivront plus. Elles se contenteront de faire pour elle et sans elle. Mère, maîtresse du double mouvement, véritable oxymore, présence rayonnante, voilée par une lumineuse absence. Ghost face killa. Tu ne comprends ni ce qui se passe, ni ce qui s'est passé.
Et pour terminer du coup avec la lecture de ce recueil, on a choisi des extraits d'un texte de Kiyemis. Alors Kiyemis, elle est blogueuse et podcasteuse afroféministe. Elle a été chroniqueuse pour le podcast Quoi de meuf, autrice du recueil de poèmes À nos humanités révoltées. Et elle revendique la nécessité de prendre la parole face au système d'oppression et de faire entendre les récits et combats multiples entremêlés à l'intersection. Alors, son texte s'appelle « La sororité comme horizon ». Je n'ai malheureusement pas grandi avec des sœurs. J'ai été entourée de frères qui mériteraient de longues lignes, des paragraphes et des pages entiers. Mais la sororité, ça a d'abord été l'absence. L'absence de sœurs, l'absence de cousines dans mon entourage. J'étais la seule fille dans l'espace que constituait ma famille proche, et ma mère était enfant unique. Ni moi ni ma mère n'avons fait l'expérience de la sororité familiale et de sang. Pourtant, d'aussi loin que je me souvienne, j'étais emplie de cette envie de la compagnie des femmes. Tout d'abord parce que pendant toutes les fêtes de famille élargies qui ont peuplé mon enfance, les femmes se réunissaient. Par imitation, j'imagine, j'ai considéré que ma place était au milieu d'autres femmes. Et puis, au-delà de ces instants, j'étais assignée à la partie féminine de la famille nucléaire, le couple parental, mon frère et moi, que nous composions. Je m'y plaisais énormément. J'aimais ces moments où ma mère s'occupait de mes cheveux, m'emmenait au salon de coiffure, qui était aussi en général exclusivement féminin. Ces moments, du fait de la nature de mes cheveux, étaient souvent longs. Ce sont aussi les moments où, dans un monde où mon image était absente, je me sentais le plus fille. L'adolescence, une époque où ma mère me répétait, souvent avec agacement, que je n'étais pas sa copine. Une manière pour elle de se positionner comme autorité inébranlable, à respecter, mais qui ne poussait pas forcément aux confidences. Je n'imaginais pourtant pas à quel point cette volonté de nous distancier pourrait me protéger. Cette distanciation m'éloigna des rapports de compétition que le patriarcat fait naître entre les femmes d'une même famille, d'une même fratrie, d'un même groupe. Si nous n'étions pas égales, je n'avais pas à envier son poste, à la jalouser et à la voir comme une rivale, et vice-versa. Elle était à sa place et je pouvais m'épanouir à la mienne. Il fallait cependant bien aller chercher la sororité, amicale, quelque part, si elle n'était pas présente dans mon cercle familial. Comme si, pour moi, le seul espace où je pouvais m'épanouir, c'était en présence de femmes. Comme si j'avais intériorisé que le groupe de femmes était l'endroit le plus à même de me permettre de m'épanouir et de me rendre heureuse. Comme si tous les discours qui visaient à décrire les groupes de filles comme des groupes pleins de vices, de trahisons, de commérages, n'avaient eu aucun effet. C'est en allant chercher la sororité que j'ai rencontré le féminisme. Il faut dire les choses. Ma mère avait déjà planté les graines de la colère à coups de « tu es une femme, tu es noire, tu devras en faire trois fois plus ». Certaines de nos conversations étaient profondément féministes. D'autres étaient jonchées de débris de nos stéréotypes et de constructions sexistes que nous essayons tant bien que mal de détruire brique par brique. Mon féminisme est né au sein de cet amour filial, cette capacité à reconnaître l'humanité, voir la splendeur, la brillance, chez les femmes qui m'ont élevée et précédée. Ce féminisme est né parce que je ne comprenais pas comment on pouvait pousser dans le noir des femmes qui rayonnaient de mille feux. De plus en plus, j'entends des appels à la sororité. Ne soyez pas rivales, soyez sœurs. Soutenez-vous entre sœurs. Ma première réaction face à ce type de slogan est mitigée. Je me dis qu'ils sont pleins de bonnes intentions, mais qu'ils sont un peu naïfs. Bien souvent, la naïveté en politique, c'est l'outil des dominants et des dominantes. Car celles et ceux qui sont écrasés ne peuvent être naïfs. C'est l'arme de ceux qui prétendent détester le conflit. Et puis ces appels sonnent souvent creux aussi, il faut bien l'admettre, parce qu'on ne sait pas bien ce qui se cache derrière le terme de sororité. Que signifient concrètement, finalement, politiquement, ces appels à la sororité? De quelle sœur on parle exactement? Est-ce que la femme bourgeoise, vivant dans un grand appartement en centre-ville, peut voir la femme précarisée, primo-arrivante, avec ses problématiques et son histoire de vie, et lui demander la sororité? Est-ce que la citadine travaillant dans un bureau de la Défense peut imaginer la vie d'une agricultrice de Franche-Comté ou de Côte d'Ivoire et exiger de sa part la sororité? Il est important pour moi, qui me reconnais dans les idéaux afro-féministes, de définir exactement ce qu'on place derrière le mot sororité. Car, trop souvent, ce mot est utilisé pour masquer et bâillonner celles d'entre nous qui observent, soulèvent et veulent abolir les distinctions entre les femmes et les privilèges qui en découlent. La sororité politique est exigeante et ne doit pas se limiter à de simples gestes performatifs. Elle ne doit pas seulement être évoquée pour féliciter les accomplissements individuels et professionnels de certaines. Car même si je comprends l'impact psychologique que c'est de voir quelqu'un qui nous ressemble franchir un plafond de verre, Il m'est difficile d'oublier à quel point nous sommes encore bien nombreuses à nous débattre dans les marécages boueux. Bien souvent, on me rétorque que c'est en étant à ces postes que l'on peut en tirer d'autres par le haut. Et je pense qu'à la marge, il est effectivement possible que celles qui sont arrivées puissent ouvrir la porte à d'autres. Mais ne nous leurrons pas. Même si certaines réussiront à se hisser à des postes prestigieux, la réalité est que ces espaces ne sont pas conçus pour que les femmes, et encore moins les femmes pauvres, non blanches, venant des pays des Suds, qui ne sont pas hétérosexuelles et qui ne sont pas valides, occupent les places en nombre. Et ce qui compte à mes yeux dans la sororité, c'est le nombre. Comment, dès lors, réussir à se féliciter honnêtement de voir un visage féminin aux institutions qui oppressent tant d'autres femmes? Danser entre ces contradictions, marcher sur ces lignes de crête est extrêmement difficile. La réalité, c'est que la sororité politique, la vraie, est difficile. Elle est difficile parce qu'elle appelle à une volonté de changement collectif et que nous sommes dans une ère qui incite à se recroqueviller sur nos cercles très réduits. J'en suis coupable autant qu'une autre. La sororité, c'est dire non à l'individualisme. Et c'est dur tous les jours, parce que c'est contraire à tout ce qu'on nous a appris. La sororité politique, c'est difficile et c'est exigeant. Pour moi, l'une des manières dont on peut pratiquer un féminisme traversé par cette idée de sororité effective, qui serve au plus grand nombre, est par exemple le fait de promouvoir une forme de revenu universel décent, ou même un salaire à vie. Certaines et certains considèrent que le salaire à vie ou le revenu universel pousserait les personnes à se complaire dans la fainéantise. Pourtant, en tant que femme, on sait à quel point tout travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur, voire pas du tout. Imaginez le nombre de réalisatrices, d'artistes, d'entrepreneuses, de politiciennes qui existeraient si aucune femme n'avait à se soucier de sa survie. Imaginez toute cette belle énergie, toute cette belle créativité, toutes ces richesses finalement, détruites par la pauvreté ou la peur de devenir pauvre. Certaines, certains, me diront que je rêve, que mes rêves sont niais. Mais le féminisme est un mouvement poussé par une utopie, par le rêve de l'égalité. La sororité se doit d'être émancipatrice et révolutionnaire, comme le féminisme. Et si on ne la limite pas à un slogan visant à promouvoir les plus privilégiés d'entre nous, la sororité politique peut nous amener à réfléchir comment, collectivement, on peut se construire une vie plus douce.
Wash my soul again.